la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre promenade dans le dictionnaire des titres et vous faire connaître quelques-uns des éléments souvent insolites qui se cachent derrière les titres des morceaux de jazz, lesquels sont aussi fantaisistes d'ailleurs que les titres du baroque, mais ça, personne ne le sait, finalement.
N'est-ce pas ?
Et nous commençons par des excuses, puisque le morceau qui vient s'appelle « Apologies ». En fait, dans tout ça, il y a aussi une notion de préséance, puisque l'hommage, l'excuse, la préséance, le respect est là, dans l'idée qu'a eu Mesereau de baptiser ce morceau « Apologies », puisqu'en fait, il a mis un petit sous-titre. Il s'agit des excuses à King Oliver et à Lou Armstrong pour avoir utilisé quelques-unes de leurs idées. Alors, à bien écouter le morceau qui vient, on voit que les idées en question viennent souvent du thème de Deeper Mouse Blues. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un morceau fort intéressant et également fort bien arrangé.
Tout le monde n'a pas cette même délicatesse de sentiment. Hein. Il y a des gens, ils ne se gênent pas, ils prennent ce qui les arrange et même quelquefois, ils disent que c'est eux qui les ont inventés. Allez hop !
Apologies !
Le vieil Abraham, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme Sarah. Et parce qu'il voulait absolument avoir un gamin, eh ben, il a choisi une très ravissante noire qui s'appelait Agar et qui lui a fait aussitôt un joli marmot.
Agar, c'était la servante de sa femme.
Qui acceptait cette situation en disant « je suis stérile ». Parce qu'à l'époque, être stérile, c'était la honte absolue.
Naturellement, quand les esclaves noirs ont découvert la Bible, ils se sont tout de suite identifiés à la descendance de Agar, à tel point qu'ils ont surnommé cette héroïne de la Bible « Tante Agar », notre tante Agar. Et le blues que vous allez entendre avait comme titre original « Le blues des enfants de Tante Agar ». Puis on ne sait pas très bien pourquoi c'est devenu le blues de Tante Agar, mais de toute façon, c'est un très joli morceau composé par William C. Handy, l'auteur du fameux St. Louis Blues.
Et qui on entend là? Le fameux Cat Anderson, le spécialiste des suraigus, mais qui savait aussi jouer avec beaucoup de tendresse.
Et là, il joue avec beaucoup d'agressivité, mais pas dans le suraigu, parce que ce qu'on sait peu, c'est que Cat Anderson était un très grand spécialiste de la sourdine dite wah-wah. Vous savez, cette manière de jouer avec un débouchelier devant le pavillon qui fait parler l'instrument. Alors le morceau que vous allez entendre, c'est un festival wah-wah. Voici donc, par le seul et unique Cat Anderson,
Aunt Agar's Blues.
voici maintenant Duke Ellington et son grand orchestre. Et le morceau s'appelle « Are You Sticking ?». Alors là, c'est un morceau pratiquement d'actualité, puisque pour moi, il est totalement axé sur la lutte pour la vie. Hein.
Si on le traduisait « Are You Sticking ?», le « stick », c'est la cravache. Et c'est une sorte de formule pour dire « Est-ce que vous bossez vraiment fort ? Est-ce que vous cravachez ?» D'ailleurs, c'est un terme français qui, quand on veut faire quelque chose complètement à fond, eh ben on appelle ça cravacher.
Oui, parce que ça va quand même plus loin que le, alors, vous êtes trop de boulot. Non.
Là, c'est...
Ça marche.
Est-ce que ça marche fort ?
Oui, c'est aussi un peu. Est-ce que vous avez planté votre clou, là, finalement ? Vous tenez le coup, enfin, etc. Donc, ça illustre bien, d'ailleurs, à une époque où il y avait moins de chômage que maintenant. Moins qu'en Amérique, il n'y en a quand même pas énormément. Mais enfin, il y en avait très peu. Ça illustre le fait que beaucoup de Noirs avaient plus de mal à trouver du travail que des Blancs. Hein, donc il fallait vraiment mouiller son maillot plus que les autres. C'est tout le sens de ce « Are you sticking ?» par Duke Ellington. Maintenant en plein plan d'urbanisation de New York. Mais alors, le plan d'urbanisation des origines.
Oui, parce que dans cette ville qui a été faite, je ne dirais pas à toute vitesse, mais quand même, c'était un peu une ville champignon, ils ont commencé par faire des rues. Et même plus loin, par faire des avenues.
C'était en plus pour contrôler tout l'urbanisme futur, en mettant tout ça au carré, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est une habitude très américaine. On ne va pas faire des petites choses un peu compliquées. Allez, on fait une avenue très grande, très large, et puis des petites rues Mais pas si petite que ça, hein.
Les avenues et les rues étant perpendiculaires, il a fallu numéroter les unes et les autres. Donc on a numéroté les rues de 1 à, je sais plus, à 200 quelque chose. Et les avenues qui étaient dans l'autre sens, là, comme c'est Manhattan et que c'est assez étroit, il y en avait quand même moins à numéroter. Alors, on est parti d'une première avenue. Vers l'ouest, on en a numéroté 11 autres, c'est de 1 à 12. Et vers l'est, ah, on ne peut pas mettre des nombres négatifs à une avenue. Donc on a pris des lettres ABCD. Voilà.
Cette avenue, C ou Si, elle n'est pas très bien famée, hein, je vous le dis. C'est un quartier qui craint, à quelque chose près. Mais vous savez, les Noirs à l'époque, ils étaient un peu habitués quand même.
Oui, mais quand même, c'est un quartier qui craint, comme tu dis. Et l'arrangement qui en a été fait pour l'orchestre de Count Basie, que nous allons entendre, je trouve qu'il en tient un peu compte. Hein, c'est un arrangement assez contrasté, on peut même y prendre des mauvais coups. Voici donc, par Count Basie et son orchestre, Avenue Si, si comme count.
Count, bien sûr. Le morceau suivant, c'est un peu un rêve d'enfant. Vous savez, les adultes, ils restent dans leur tête quelquefois un peu enfant. C'est ce qui s'est passé avec Cootie Williams. C'est qu'il aimait, il adorait Jules Verne. Et le tour du monde en 80 jours, c'était peut-être son livre de chevet. Bref, voilà un morceau.
Composé et exécuté en l'honneur de ce récit de Jules Verne, que tout le monde connaît. Je soupçonne néanmoins, puisque nous sommes en Amérique, qu'on s'affaire plus au film qu'au livre. Mais ça, nous n'irons pas sonder les tables de chevet de ces messieurs. Toujours est-il qu'il faut se représenter Cootie, qui était un personnage assez massif, avec un visage extrêmement figé pratiquement. Un type qui semblait d'un abord difficile. Et pourtant, quand on connaissait un peu Cootie et qu'on lui adressait la parole, son visage s'éclairait et il devenait très gentil. Il y a des ours comme ça, paraît-il. Il avait cette particularité, d'ailleurs, d'avoir un visage très différent quand il était au repos et quand il jouait, et en particulier quand il jouait Wawa. Mais il ne se gonflait pas comme un poisson lune, comme Dizzy Gillespie. C'était un changement de visage, c'était assez étonnant.
Il se soignait bien, un Cootie. Je dirais même qu'il prenait vraiment soin de sa santé, parce qu'il avait un objectif, cet homme-là.
Il voulait vivre 100 ans.
Pas de chance. 77 ans, mais c'est déjà pas si mal, allons.
Oui, tu sais, les trompettistes vivent un peu sous la menace d'une vieille citation de King Oliver. Ce n'est pas vous qui aurez la trompette, c'est la trompette qui vous aura. En attendant, voici le tour du monde en 80 jours par Cootie Williams.
Morceau suivant, eh bien, il va être joué par un homme très particulier, Lightning Hopkins. Cet homme-là a une enfance particulière, pour une raison qu'on ignore. Il s'est sauvé de chez lui à l'âge de 8 ans. Et là, il est devenu ce qu'on a appelé un hobo. Alors, on en a quelquefois parlé sur Radio Margeride. Un hobo, c'est quelqu'un qui se glisse dans les trains. Alors, il peut se glisser en haut, il peut se glisser dans les wagons, mais quelquefois, il se glissait sous les wagons, ce qui était effectivement très risqué.
Oui, parce qu'il fallait échapper aux gardiens du train.
C'était des évidemment.
Nous nous empressons de dire qu'il s'agit de trains de marchandises et qu'ils n'allaient quand même pas très vite. Néanmoins, c'était un peu acrobatique. Enfin, toujours est-il que pour reprendre une expression française sur ce genre de vagabondage, le jeune Hopkins a brûlé le dur dès l'âge de 8 ans. Il s'est baladé comme ça dans le Texas, à droite, à gauche, il a joué, il a chanté.
Et là, il a un très bon souvenir apparemment d'une ville qui s'appelle Abilene.
Qui se trouve au nord-ouest du Texas. Il en a tellement bon souvenir que tout le blues que vous allez entendre, qui s'appelle donc Abilene, est consacré à dire « Ah, là où je suis, qu'est-ce que je m'enquiquine ? La ville est pas bien, on n'a rien gratuitement, il fait toujours mauvais, enfin c'est vraiment le bazar. J'aimerais vraiment que le train que j'attends ici, il aille à Abilene et que je puisse m'en aller. » Voilà. Grosso modo, toutes les paroles sont tournées vers cette espèce de d'Eldorado.
Voilà, fuyons sur Abilene.
If you ever go out and wear Texas, boy, won't you stop by Abilene? If you ever go out and wear Texas, boy, won't you stop over in Abilene? Yes, you know some women there, man, they got a house all painted in green. While I'm going out in West Texas, boy, just to run out on the rain. While I'm going out in West Texas, boy, just to run out on the rain. Yes, now so I can rope a streak of lightning, boy, and hit a shower rain. Yes, you know I got a little woman, she lives up on the hill. She drinks a corn whiskey, man, it run fast from the still. You know I got a little bitty woman, whoa, Lord, she lives up on the hill. Yes, you know she drinks a corn whiskey, boy, run right from the still.
Voici maintenant Adam Blues His Hat.
Alors ça, c'est une drôle d'affaire de chapeau. C'est même plein de jeux de mots là-dedans.
Oui, mais c'est un calembour signé Lionel Hampton, de chez Le Bon Faiseur. Il y avait à l'époque, dans l'argot des musiciens, « blow on top », ça voulait dire « rentrer dedans ». Là, alors Lionel Hampton, c'était le genre de musique qui rentrait vraiment dedans.
En français, c'est quand même passé dans les mœurs de dire « ah, c'est top ».
Ouais, c'est
top, c'est vraiment le haut du panier.
Et qu'est-ce qu'il y a en haut, dans l'habillement des gens, il y a le chapeau. Donc cette expression est devenue « blows one hat hein ».
Allez, fais-nous un chapeau.
Voilà, fais-nous un chapeau. Bah, tu sais, hein, l'argot, c'est l'argot. Hein. Et naturellement, le calembour, vous vous demandez où il réside. Eh bien, il réside dans Adam, parce que le titre « Adam blows his hat ».
Eh bien, Adam, c'est un fabricant de chapeaux célèbre.
Voilà, vous avez tout compris. Et maintenant, Lionel Hampton va vous commenter tout ça en musique.
Thank you.
Les musiciens, vous savez, c'est des gens qui passent leur vie sur les routes, mais quelquefois aussi sur les bateaux.
Ah oui, c'est vrai, le train, l'avion, le bateau, la route, t'as raison.
C'est un peu, pour certains, une forme de deuxième, troisième, quatrième maison. Et là, il y en a un qui s'est drôlement plu sur un bateau.
Ah oui, ça c'est vrai. Le bateau allait de San Francisco à Honolulu, c'est quand même dire qu'il y a de la distance. Il y a un peu de temps à passer. L'océan Pacifique, c'est une mer absolument légendairement magnifique. Bref, le ciel est bleu, la mer aussi, et Monsieur Lou Waters, qui est sur le bateau et qui s'en va jouer avec son orchestre à Honolulu.
Eh bien, devinez ce qu'il fait ce gars, ce musicien. Eh bien, il compose, parce qu'il est dérangé par personne, et qu'effectivement, comme tu disais, il fait beau, il se sent bien, alors il compose des morceaux.
Et il a composé, pendant ce voyage, quelques morceaux qui sont restés assez connus, sauf celui que vous allez entendre, parce que celui-là, c'est une sorte de synthèse. C'est un blues, et en souvenir de ce voyage, donc, comme tu disais, ils aiment bien baliser tout ça. En souvenir de ce voyage, il l'a appelé Antigua Blues. Antigua, c'est le nom du bateau. Question. Nous sommes à Chicago et l'avenue s'appelle la Armour Avenue. Peux-tu m'expliquer pourquoi ?
Alors peut-être que c'était un monsieur très savant, très généreux, qui s'appelait Armour ?
Ben non.
Ah ben non.
Non.
On va pas, On pourrait vous poser la question. Vous n'en savez pas plus que moi, mais Laurent, lui, sait.
Eh bien, moi, je peux vous dire que le jour où on a tracé cette rue, elle est passée le long d'une boucherie industrielle qui était l'établissement principal de la compagnie Armour, The Armour Company. On est à Chicago, tu sais qu'à Chicago, la viande, les abattoirs, enfin...
Ah oui, oui, oui.
Et même, il paraît que les gangsters faisaient beaucoup de viande froide aussi.
Et on s'arrête peut-être là. Hein.
Et alors, cette Armour Avenue, d'ailleurs, on a connu un musicien qui y est né, qui était le batteur Wallace Bishop, un homme charmant, excellent batteur. Dans cette avenue, il y avait des boîtes de nuit, des petits clubs, et une danse y faisait fureur, à l'époque où le morceau était enregistré.
Et c'était le Struggle. Alors, on s'est bien un peu renseigné parce que Struggle, ça a plein de sens différents.
Ah oui.
Il y en a où c'est quelque chose, ça veut dire minable.
Ça veut dire minable au point de vue musical.
Ah oui, c'est pas cadeau pour un musicien.
Non, c'est pas cadeau.
Ça veut aussi dire une drôle de chose, c'est les gens, vous savez, qui se cotisent pour faire une soirée. Eh bien, c'est Struggle aussi.
Oui, c'est plus connu sous le nom de House Rent Party parce que le produit de la soirée servait à payer le loyer des gens qui l'organisaient.
Oui.
On faisait payer l'entrée quand même. Alors on payait les musiciens, la bouffe et le loyer. Ben, c'est pas mal.
Mais il fallait qu'il y ait du monde. Voilà.
Oui, bonne formule. Alors ça s'appelait, à cette époque-là, quelquefois, ça s'appelait Struggle. Puis Struggle, ça veut aussi dire la bagarre.
Ah oui.
En plus de cette fameuse danse. Alors écoutez, vous ferez le tri.
Ben, je pense que ça devait quand même être une danse un peu agitée, si vous voulez mon avis.
Sans doute. Quoi qu'il en soit, c'est aussi le titre d'un solo de piano, d'un pianiste un peu rustique, un peu poétique, mais un mec très sérieux, et qui a marqué... Il y a des gens qui donnent une certaine atmosphère à ce qu'ils jouent, et lui, il en fait partie. Et c'est un pianiste très connu à Chicago, à l'époque, qui s'appelait Jimmy Blythe. Eh bien, c'est lui qui va vous jouer, tout seul, devant son piano.
Comme un grand...
Et il y a quand même 88 touches sur un piano, c'est impressionnant. Et quelquefois, en levant des petits capots, il y en a encore plus. C'est lui qui va vous jouer Armour Avenue Struggle. Puisque c'est comme ça, j'ai une autre devinette. qu'est-ce qui se trouvait à Houston ?
Vous connaissez tous, naturellement.
Bien sûr. Et qui, à cette époque de l'immédiate après-guerre, avait été baptisé 1300.
Vous savez tous ça. Alors moi, j'ai fait des tas de suppositions que ça valait peut-être 1300 dollars.
Oui, c'est vrai qu'on pense beaucoup en dollars dans le Texas, non mais...
Ben oui.
Eh ben en fait, ce n'est pas des dollars, c'est des kilohertz. Enfin bref, ces 1300-là, c'est la fréquence de la radio qui avait le même nom, qui se trouvait à Houston et qui n'avait rien trouvé de mieux que de passer très souvent les disques d'un jeune saxophoniste texan extrêmement prometteur. Donc ça a été une promotion aussi. Et c'était le seul et unique.
Arnett Cobb, qui a été si reconnaissant qu'on le passe, qu'il a écrit un morceau qui s'appelait Arnett Blows for 1300. Voilà, qui était le nom de la station.
1300, si vous préférez. Il faut dire quand même que Arnett Cobb, non seulement il était texan, mais il était de Houston. Alors, il est quand même probable que c'était un copain. Le copain, c'était le DJ jazz de la station.
Qu'on appelait couramment King Bee. Bee, ça veut dire l'abeille.
Voilà. Ouais, alors, le roi des abeilles, c'est étonnant comme idée. Parce que, entre nous, le bourdon des abeilles, il ne vit pas vieux. Hein.
Peut-être qu'il aimait le miel. Sait-on.
Oui, c'est vrai.
Enfin. Bref.
Un titre qui s'appelle « Ain't no flies on me ». Il n'y a pas de mouches sur moi. J'ai pas de mouches. Je ne suis pas fréquenté par des mouches. Je ne fréquente pas de mouches. Enfin bref, il n'y a pas de mouches dans le coin, voilà.
Dans toutes ces expressions, un peu argotiques, rigolotes, il y a toujours une raison. Est-ce que j'ai pas de mouches sur moi ? Ben, ça veut dire que je suis toujours bien propre. Peut-être.
Mm-hmm.
Ou alors, ça veut dire... que je suis tellement actif que les mouches ne risquent pas de venir sur moi.
Eh bien, c'est tout ça à la fois. Quelqu'un qui n'a pas de mouches sur lui, il est intelligent, il est vif, hein, il a l'œil rapide. Hein. Et en tout cas, c'est une sorte de gendre idéal, car il n'est pas du genre à faire l'imbécile. Alors ça, c'est quand même très, très, très apprécié par les parents de la fille, hein, quand on trouve un type comme ça.
Mais c'est tout à fait vrai si on voit un gendre arriver tout couvert de mouches, on n'a pas du tout envie de le garder à la maison.
Mauvais effet. Enfin, en tout cas, qui a choisi ce titre quelque peu étonnant? Eh bien, c'est Lips Page, soi-même, trompettiste, chanteur, et qui n'a pas de mouche sur lui.
Hey man, here comes Hot Lips Page.
He's a cool cat, ain't he?
That he is. Hey Lips, how can you afford to stay so sharp all the time?
Well, I tell you just like this.
I'm just a guy that may seem shy, but let me set you straight. If you think you're hip, boy, you flip when you watch me operate.
There ain't no flies on me. Ain't no flies on me.
You might be flies on some of you guys, but there ain't no flies on me. Now I took my baby down to see the show. She had eyes to spend all my dough. Now she might be the coolest chick in town, but I know just what she's putting down.
There ain't no flies on me. There ain't no flies on me.
There might be flies on some of you guys, but there ain't no flies on me.
Now Lips told me the other night, you know, honey, I'm gonna treat you right. I'll buy you the longest car in town,
providing you put that first payment down.
There ain't no flies on me. Ain't no flies on me.
There might be flies on some of you guys, but there ain't no flies on me. Party the other day, a big leg mama was heard to say,
got a fine brown frame as warm as toast.
Now you know the part that I like the most.
Ain't no flies on me. Ain't no flies on me.
There might be flies on some of you guys, but there ain't no flies on me. Cause I'm curving, swerving, and moving, and grooving when I leave the scene. You'll hear me scream, there ain't no flies on me.
Eh bien voici quelque chose qui, au moins en ce qui concerne le titre, est une suite logique du précédent. Il s'appelle All On.
C'est tout le contraire du gars qui a des mouches sur lui.
Ah oui, là c'est sûr.
Ça veut dire, il a tout. Il est propre. Il est beau, il est intelligent.
Il est raffiné.
Il est raffiné, voilà. Et il est à la dernière mode.
Absolument. Et en plus, il est au courant de tout. Voilà.
C'est le type qui est le meneur que tout le monde admire.
À une époque, on disait, il est in.
Ouais, mais comme il y avait plein de gens in...
Là, ils disent ouais. On.
On.
Bon. C'est étonnant quand même. Enfin, il est tout bien, quoi, voilà. Et ça, c'est un morceau de Lionel Hampton qui va donc tout à fait illustrer cette expression. Mais le problème, c'est que c'est certainement au studio que ce titre a été trouvé pour désigner quelqu'un qui commençait sans doute à agacer tout le monde parce qu'il savait tout, qu'il était toujours le plus beau, le plus propre, le plus ci, le plus là. Je soupçonne le truc et on ne sait pas de qui il s'agissait. Voilà. Thank you.
Terminer avec un nom de femme.
Ah.
C'est Anita.
Anita.
Et qui était cette Anita? Bien, c'était la femme légitime, je précise bien, de Fats Waller.
Mais en fait, Anita était la seconde femme légitime de Fats. Et il avait eu beaucoup d'ennuis avec la première.
Ils se sont séparés et là...
Et là, eh bien, le pauvre Fats a simplement oublié qu'une séparation était corollaire d'une pension alimentaire. Il a oublié de la payer et a expédié en tôle au CISEC.
Faut dire une chose, en tôle, il a eu tout le temps de composer des tas de morceaux.
Oui, mais il y en a un quand même qui est sorti du lot, car il s'appelle I'm Misbehaving, ce qui veut dire « j'ai rien fait de mal ». Pas mal pour un morceau composé en prison.
Ben oui, il se défend comme il peut. Hein.
Ah oui, il refait le procès après coup. Enfin, finalement, naturellement, il a payé, il est sorti de prison. Mais il avait quand même dans ses bagages ce morceau, qui a été un des morceaux joués, je crois, à la revue, à la fameuse revue Hot Chocolate de 1929, s'il vous plaît, avec Armstrong sur scène. Une revue qui a fait du bruit, c'est moi qui vous le dis.
C'est un morceau hyper célèbre maintenant.
Ah oui, c'est vraiment un des morceaux les plus joués.
De jazz, naturellement.
Et vraiment un morceau, c'est un très beau morceau, très agréable à jouer, agréable à entendre quand il est bien joué, naturellement. 10 ans plus tard, il a fait, en musique, le portrait de cette chère seconde femme.
Anita.
À vous de juger.
Thank you. like blue skies above me. I need you and love you, I do. Just what is this madness that gives so much gladness? I know, dear, and feel, dear, it's you. My dreams are bound to come true. Gray skies will change into blue. Your eyes will help see me through. It's not a great big task. Your love is all I ask. My whole life was wasted. Till your sweet lips I tasted. I know now, repeat now. I love you, Anita, I do.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.